RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. On vient de parler de cette immense figure du féminisme, figure de l'Europe également, Louise Weiss, dont on célébrera vendredi les 40 ans de la disparition. Et c'est bien sûr l'occasion de parler plus généralement de l'Europe. Et il faut se l'avouer, parfois, c'est un peu dur de tout comprendre hein, entre les différentes institutions, le Parlement, la Commission. Bref, comment rendre l'Europe un peu plus accessible, notamment auprès des jeunes? On va en discuter avec nos trois invités jusqu'à 11h. Et vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Est-ce que l'Europe vous intéresse? Ça, c'est un premier point. Que représente-t-elle pour vous? Est-ce que vous vous sentez véritablement citoyen européen? Avez-vous dans votre enfance été sensibilisé à l'Europe? Et puis, connaissez-vous des associations, des initiatives qui parlent d'Europe aux jeunes? Et pourquoi c'est important d'ailleurs de vraiment parler de l'Europe aux jeunes? On vous attend au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr. On y va.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et comme il est de tradition dans Je pense donc j'agis, on parlera de patrimoine également à 10h55 pour finir l'émission en compagnie de Jacques de Chauvelin de la Sauvegarde de l'art français qui évoquera un beau projet pour la renaissance d'une abbaye longtemps laissée à l'abandon. Et pour nous accompagner jusqu'à 11h, on a le plaisir d'accueillir trois invités. Bonjour Louise Groyer.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous sur RCF. Vous êtes la vice-présidente et responsable d'un programme qui s'appelle l'Europe par les jeunes et qui fait partie des Jeunes Européens France. Bonjour Jérôme Quéré.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RCF. Vous êtes le délégué général du mouvement européen. Et enfin Marie-Laure Kroguenec. Bonjour.
Bonjour Melchior.
Merci d'être avec nous en direct de nos studios qui se trouvent à Brest. Vous êtes professeur des écoles, Marie-Laure, et puis membre de l'AEDE, c'est l'Association Européenne de l'Éducation. Alors je me tourne vers vous pour commencer, pour faire un lien aussi avec la première partie de Je pense donc j'agis, où on a parlé de cette figure, hein, Louise Weiss. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Marie-Laure Kroguenec?
L'Europe au quotidien.
Vous voulez dire Louise Weiss, qu'est-ce qu'elle représente, pardon?
C'est une figure emblématique, c'est un modèle, c'est une destinée, je crois, et qui nous inspire tous. Hein, Louise Weiss, Simone Veil, tout ça, ce sont des figures vraiment qui ont marqué le siècle et qui constituent vraiment des fondements et des références, des visages, mais aussi des paysages qui nous inspirent au quotidien, bien sûr. Oui.
Et vous, Jérôme Quéré, alors vous êtes un peu plus jeune, je me permets de le dire, hein, que Marie-Laure. Est-ce que vous connaissez Louise Weiss?
Oui, bien sûr. On parle souvent des pères fondateurs de l'Europe. C'est vrai qu'à l'époque, il y a eu beaucoup d'hommes hein, en responsabilité. Mais il y a aussi des femmes qui sont engagées pour l'Europe. Ça a été dit comme Louise Weiss, Simone Veil. Et donc, c'est des femmes qui vraiment ont porté les valeurs européennes. Et je trouve qu'on parle pas assez des femmes aussi qui sont investies pour l'Europe. Il y a aussi Gisèle Halimi et d'autres. Donc, ça fait plaisir d'en parler.
Et vous, Louise Groyer, je termine le tour de table hein, tant qu'à faire. Louise Weiss, ça vous parle?
Oui, bien sûr, je rejoins Jérôme et Marie-Laure sur ce point. Ce sont souvent des figures qu'on a tendance à négliger et qu'il est nécessaire de remettre en lumière, si je peux dire ça comme ça, parce que voilà, ce sont aussi les mères fondatrices de l'Europe.
Voilà, Louise Weiss, dont on célèbre, je rappelle, ce vendredi, les 40 ans de sa disparition. Alors Louise Groyer, je ne veux pas que je me trompe, hein. Vous faites partie des Jeunes Européens France. C'est une association mais qui regroupe plusieurs entités à travers l'Europe.
Alors, notre association, les Jeunes Européens France, fait partie du réseau donc de la JEF Europe. Donc, qui est un réseau européen et qui regroupe des jeunes âgés entre 16 et 35 ans. L'association Les Jeunes Européens en France, on est constitué d'un maillage territorial avec environ une trentaine de sections locales réparties sur l'ensemble du territoire.
Jérôme Quéré, à quel moment, vous, dans votre parcours, dans votre vie, vous vous êtes intéressé un peu plus à l'Europe?
Alors moi, ça a été vraiment mon expérience Erasmus en Espagne. Avant ça, j'ai pas particulièrement de souvenir d'avoir entendu parler d'Europe à l'école. C'est certainement le cas pourtant, hein, mais pas beaucoup de souvenirs. Et vraiment, l'Erasmus en Espagne, ça m'a permis de rencontrer, bien sûr, des Espagnols, la culture espagnole, mais aussi beaucoup d'autres Européens, discuter entre jeunes. Et par la suite, j'ai continué dans des études européennes et je me suis investi aux jeunes Européens, puis au mouvement européen.
En attendant vos appels au 04 72 38 20 23, ce que je vous propose, c'est de se rendre dans la rue pour demander aux gens un peu ce qu'ils pensent de l'Europe. Est-ce que ça leur parle vraiment? Est-ce que ça les intéresse? Et c'est Amaury qui est allé faire un micro-trottoir. On écoute.
Si, bien sûr que ça parle, mais dire très précisément ce que ça peut m'apporter ou ce que je peux ne pas approuver, c'est plus compliqué.
Je ne sais pas spécialement. Je ne m'y intéresse pas autant.
C'est un truc assez abstrait, ouais.
Je maîtrise les grandes institutions, je sais distinguer le Conseil de l'Europe, l'Union Européenne, les grandes instances. Mais en réalité, si je creuse un peu, je sais que j'ai encore quelques lacunes.
Si, ça représente quelque chose pour moi. Moi, j'ai vécu dans plusieurs pays européens. Dans mon quotidien, peut-être un petit peu moins, mais ça me parle quand même.
Marie-Laure Kroguenec, alors on a entendu quelques extraits, quelques personnes, des générations assez différentes, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que ce sont des témoignages que vous entendez également, vous, en classe? Alors on imagine que les jeunes, forcément, vous leur parlez beaucoup d'Europe, mais peut-être les parents?
Oui, les parents parlent un peu, enfin les parents suivent, sont tout à fait favorables. Moi j'ai des jeunes pour situer les choses, j'ai des élèves de CM2, donc ils ont entre 10 et 11 ans. Donc l'éducation à la citoyenneté européenne est quelque chose de très présent dans ma pratique enseignante. Alors surtout, je dirais depuis les 15 dernières années, certainement suite à une prise de conscience chez moi. Dans ma vie, en fait. Auparavant, c'est certainement que c'était là et que ça ne demandait qu'à germer, mais c'était pas autant conscientisé. Alors, ce que je retiens surtout, c'est que pour que cette éducation fonctionne et que l'Europe soit présente, il faut que ça passe par du concret, par des situations authentiques. Et puis, bon, c'est sur le terreau de l'enfance que ça se met en place, que ça se construit. Et effectivement, tout à l'heure, la personne là, qui parlait dans la rue et la personne qui donnait un témoignage, on va dire, positif, elle a employé le mot vécu. Elle a vécu, ouais, dans des pays, elle a vécu des situations. Et autrement, c'est un petit peu le flou qui entretient. Si on parle d'Europe au travers des termes comme les institutions, comme tout cet aspect-là qui existe, hein, qui ne faut pas négliger. Mais bon, certes, mais si on ouvre la porte par cet objet-là, à mon avis, on se trompe. Disons que le chemin va être certainement plus long et puis il faudra peut-être contrecarrer certaines choses qui ne sont pas, on va dire, pas très glamour, quoi, ouais. Pour commencer en tout cas.
Et ça rejoint complètement votre témoignage, hein, Jérôme Quéré, de votre expérience avec Erasmus qui vous a permis véritablement de découvrir l'Europe un peu plus que nous depuis la France. Je rappelle que vous faites partie du mouvement européen qui existe depuis très longtemps, hein, 1950, et qui a vraiment pour objectif finalement de déployer des activités pédagogiques pour justement faire un peu plus connaître l'Europe.
Oui, tout à fait. Il y a des interventions pédagogiques dans les écoles, comme les jeunes européens, mais aussi des interventions médias, comme on le fait actuellement. Oui. On a beaucoup de débats, de conférences pour justement apporter plus de connaissances sur l'Union européenne. Mais je rejoins ce qui a été dit. Bien sûr, on peut s'intéresser au fonctionnement des institutions. C'est intéressant de les connaître. Mais pour autant, en France, on ne connaît pas forcément la différence entre les compétences d'une région, d'un département, d'une communauté, d'une métropole, les agglomérations et de tout le millefeuille administratif français. On ne le sait pas, pourtant on ne le remet pas en question et on ne se dit pas je ne sais pas du tout ce que fait mon maire. En fait, on s'intéresse quand même au maire parce qu'il nous semble plus proche, il est plus proche du territoire. Et c'est vrai que géographiquement, en effet, notre maire est plus proche. Pour autant, l'Union européenne a des incidences très fortes sur notre quotidien, mais on ne s'en rend pas forcément compte parce que parfois, il faut que ce soit transposé par le droit français, c'est-à-dire que nos politiques français vont traduire cela, pas forcément uniquement en termes de langage, mais dans notre droit. Et donc ça, on a l'impression que ça vient de la France, alors qu'en fait, ça vient de l'Union européenne. C'est souvent le cas pour les questions environnementales, par exemple.
Alors, je vous avoue que je me suis fait gronder par une auditrice qui s'appelle Marianic par rapport à mon introduction tout à l'heure. Et Marianic, elle me dit: comment voulez-vous que vos auditeurs aient un accueil positif, attentif ou au moins curieux face à leur appartenance européenne quand vous commencez par dire que l'on a un peu de mal à s'y retrouver dans ces différentes instances? C'est la banalité habituellement reconnue. C'est trop compliqué, trop loin. Or, c'est même mêmes personnes ne connaissent pas mieux leurs institutions nationales, et j'ai pu le vérifier. Voilà ce que nous dit Marianick. Bon, elle a quand même un peu raison. C'est vrai que il faut essayer de parler d'Europe avec optimisme et d'une manière assez positive. Par contre, on voit bien, Jérôme Quiré, qu'il y a un moment où ça coince, il y a un moment où on s'y perd un peu. J'invente pas quand je dis ça.
Non, mais c'est, en fait, ça dépend de comment on traite le sujet. Si on parle d'économie, d'inflation, on va perdre beaucoup de monde. Oui. Et pourtant, il y a des gens qui sont capables d'expliquer l'économie de façon simple. Yanis Varoufakis, l'ancien ministre des Finances grec, a écrit un livre sur l'économie pour expliquer l'économie à sa fille. Et il faisait des références à Matrix, à tout un tas de films, la culture pop. Et avec des mots simples, il réussit à expliquer à des jeunes adolescents les grands traits de l'économie. Alors bien sûr, il rentre pas dans le détail. Et on est tout à fait capable de le faire sur l'Union européenne, on le démontre, nos trois associations le font régulièrement, d'autres aussi, type Maison de l'Europe, un peu partout en France, donc c'est possible, c'est uniquement la manière dont on aborde les choses. Si on traite une succession de dates à apprendre par cœur, ça va pas emballer beaucoup de gens et surtout pas les jeunes. Mais si on raconte des anecdotes, si on rend chaleureux le récit sur l'Union européenne, alors à ce moment-là, ça va beaucoup plus s'intéresser.
En tout cas, vous êtes très complémentaires, hein, tous les trois, Louise, Jérôme et Marie-Laure, puisque Marie-Laure, vous êtes professeur des écoles, donc vous avez dit pour votre classe de CM2. Et puis vous, Louise Groyer, avec les jeunes européens en France, vous intervenez vraiment auprès des jeunes, hein, notamment en milieu scolaire, pour parler d'Europe. Comment on fait justement, Louise, pour parler d'Europe, mais de manière assez ludique et tout en gardant une forme de neutralité politique ?
Oui, tout à fait. Il faut savoir que les jeunes européens en France ont développé un programme pédagogique qui s'appelle donc le programme L'Europe par les jeunes, donc depuis près de 25 ans. Donc ça commence quand même à dater. Et on bénéficie également de l'agrégation du ministère de l'Éducation nationale. Donc voilà, ce qui nous permet d'avoir quand même une certaine notoriété à aller parler d'Europe auprès des jeunes et des moins jeunes également. Pour cela, on a diversifié nos outils pédagogiques. On a créé beaucoup d'outils que l'on peut retrouver sur notre site internet L'Europe par les jeunes. Et donc avec lesquels on va aller organiser des interventions dans divers lieux, alors beaucoup en milieu scolaire, mais on tend à diversifier notre public, et pour cela en amont de chaque intervention, on essaye de bien adapter en fait notre programme face au public auquel on va aller parler d'Europe. On a différents outils, différents moyens d'approche pour parler d'Europe de façon ludique, comme vous le dites.
Ouais, Marie-Laure Kroguenec, c'est nécessaire justement cet aspect ludique pour parler d'Europe?
Ah, tout à fait, mais comme pour tout apprentissage, c'est la base de l'enseignement aussi. Hein. C'est effectivement, c'est pas par la contrainte si on veut vraiment que ça fonctionne. Oui, tout à fait. Et on trouve plein de solutions, plein de ressources. Actuellement, je voyais cette semaine avec mes élèves, nous étions en train de construire le drapeau européen en géométrie. Bon, alors construire l'étoile à cinq branches, faire des drapeaux de différentes tailles, ça met en œuvre les situations de proportionnalité. Enfin, c'est vraiment les apprentissages qui sont au service de. Bon, ça c'est un exemple au niveau des mathématiques. Mais on va retrouver ça dans plein de disciplines et dans toutes les disciplines. C'est pas une matière en soi. C'est quelque chose de tout à fait transversal. C'est un regard porté et dès lors que ça fait partie du programme d'année. Mais enfin, c'est une composante parmi les autres et c'est quelque chose de tout à fait essentiel à mon sens en tout cas.
Et la première à nous rejoindre au 04 72 38 20 23, c'est vous, Aurélia. Bonjour.
Oui, bonjour Melchior, bonjour tout le monde. Alors je me permets d'appeler pour faire entendre une voix un tout petit peu discordante. J'applaudis des personnes idéalistes comme Madame Weiss, évidemment, qui est une personne admirable, enfin d'après ce que je viens d'apprendre et le peu que j'en connais. Mais par contre, j'estime qu'il y a deux phases entièrement c'est vraiment comme Janus. Il y a une face idéaliste, une face utopique. Et de l'autre côté, il y a une mise en pratique qui, pour moi, a trahi justement cet idéalisme. Alors, on parlait justement du programme Erasmus qui peut très bien, exister sans une Union européenne formelle comme celle qui a été construite.
Oui.
Pour moi, elle est devenue le contraire de ce qu'elle semblait anticiper. Si, en surface, elle semble reposer sur un désir de paix, en pratique, elle semble instaurer une espèce d'antidémocratie économique avec des décisions qui sont prises sans l'accord et sans vraiment la consultation des peuples. D'ailleurs, le Maastricht a bien été emblématique à cet égard-là. Et pour moi, l'Europe telle qu'elle est, s'inscrit dans une guerre économique, géopolitique, où les intérêts des peuples ne sont pas vraiment respectés. Ça, c'est vraiment la vision que j'en ai. Et je pense que pour revenir à l'idéal européen, il faudrait tout revoir à zéro et envisager non seulement une vraie démocratie, mais une consultation des peuples, par exemple, pour des choses aussi importantes que les traités internationaux. Et que les décisions qui engagent l'avenir économique de chaque peuple individuellement. En ce moment, l'Europe n'est pas pour moi une Europe idéale, mais au contraire une espèce d'amalgame où chaque pays essaie plus ou moins de tirer la couverture à soi et en même temps ne respecte pas vraiment les besoins et les désirs des peuples. Un exemple flagrant étant ce qui est arrivé à la Grèce, mais de toute manière, à tous les niveaux, le changement à l'euro s'est avéré être une paupérisation des classes populaires.
Merci beaucoup Aurélia pour votre témoignage. Alors, on n'est pas là pour refaire le fonctionnement de l'Europe, mais je trouve ça intéressant, Jérôme Quiré, d'entendre, comme a dit Aurélia, et elle a vraiment raison d'entendre toutes les voix, parce que oui, on est en Europe, on fait partie de l'Union européenne, et pourtant, il y a encore beaucoup de critiques sur notre appartenance à l'Union européenne. Elle a parlé du traité de Maastricht, on peut également parler du référendum de 2005, où le non était majoritaire en France, et pourtant, c'est Louis qui est passé. Bref, il y a des choses quand même, si on regarde un peu quelques années en arrière, qui peuvent faire que certaines personnes, peut-être les plus anciennes générations d'ailleurs, si je peux me permettre cette expression, ont un regard un peu différent que la nôtre, que notre génération, Jérôme.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que juste avant, on disait, l'Union européenne, je vois pas trop ce que ça m'apporte dans mon quotidien, dans mon concret, et pourtant, il y a des critiques. Donc, on voit bien que s'il y a des critiques, c'est qu'en fait, ça a un impact sur nous. Donc, je veux le voir de façon positive. Deuxièmement, je vois à travers cette critique, surtout une critique de la démocratie représentative.
Absolument.
Puisque les dirigeants français ont toujours été impliqués dans les décisions européennes à chaque instant. Non seulement à travers nos ministres et nos présidents successifs, mais aussi à travers nos élus, les députés européens français qu'on envoie au Parlement européen et qu'on élit de façon au suffrage universel direct. Donc les Français ont leur voix représentée, mais tout ne se passe pas par référendum en effet. Donc je vois plus une critique de la démocratie représentative qui a lieu aussi en France, pas que sur les questions européennes par ailleurs. Donc je trouve ça intéressant de remettre aussi dans le contexte. Alors on peut être pour ou contre telle ou telle décision, en effet, tout à fait, il n'y a pas de souci, chacun son opinion. Mais je trouve intéressant de savoir aussi d'où vient la responsabilité. Lorsqu'on est contre une décision, par exemple, ce qui s'est passé après la crise de 2008, une grande crise économique mondiale, ça vient à la base des États-Unis et ça nous a beaucoup impacté. Qui a pris les décisions? Et là, en effet, on peut avoir des critiques, mais c'est intéressant de voir, qui était un peu le pilote dans l'avion. Bon, en l'occurrence, il y a eu plusieurs pilotes qui ont chacun tiré un peu le guidon dans leur sens. Et c'était plutôt des décisions intergouvernementales. C'est-à-dire que c'est pas l'Union européenne en tant que telle, elle a eu une part, mais surtout les chefs d'État et de gouvernement, les autres, notamment l'Allemagne, qui à l'époque, c'est vrai, ont pas forcément été toujours tendres, le ministre allemand des Finances, l'ancien Wolfgang Schäuble, et Angela Merkel. Mais pour autant, c'est pas l'Union européenne en tant que qu'institution, en tant qu'organe qui a tout imposé à la Grèce de façon unilatérale. Donc c'est intéressant aussi de voir ça, ça ne veut pas dire que c'est exempt de critique. Ensuite, l'Union européenne, elle a beaucoup évolué depuis. Malheureusement, il y a eu beaucoup de crises, mais heureusement, l'Union européenne a su y répondre. Par rapport à la crise Covid, heureusement que l'Union européenne était là pour la l'achat en commun des vaccins. Sinon, on n'aurait pas été autant vaccinés. Par rapport à l'Ukraine aussi, une réponse divisée, ça n'aurait mené à rien. Donc on vient en soutien énormément aux Ukrainiens, on les accueille et on leur donne aussi de l'aide humanitaire. Je pense que ça, la majorité des Français et des Françaises sont d'accord, tous les sondages le montrent. Donc voilà, oui, l'Union européenne n'est pas parfaite, mais la France non plus. Et c'est pas pour ça qu'on dit que la France, il faut tout recommencer à zéro. On peut être très critique envers le gouvernement actuel, les précédents ou ceux qui vont arriver. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va remettre en question l'État français. Et donc l'Union européenne, c'est intéressant qu'à chaque fois qu'il y ait des critiques, justifiées ou non, peu importe, mais on se dise, bah, du coup, il faut tout remettre à plat. Ou alors, il faut essayer d'améliorer ce qu'on a actuellement. Mais tout ça se passe actuellement par la démocratie représentative. On élit nos dirigeants. S'il faut plus de référendums, il faut une majorité qui établisse ça. Mais il y a certaines décisions qui pourraient passer par référendum en France. C'est aussi nos responsables politiques français qui choisissent ou non, parfois, d'avoir ce référendum. D'autres pays européens passent plus régulièrement par le référendum sur les questions européennes.
Est-ce que l'Europe vous intéresse? Que représente-t-elle pour vous? Est-ce que vous vous sentez citoyen européen? Et puis, parlez-nous de votre enfance. Est-ce que vous avez été sensibilisé assez jeune à cette Europe? Est-ce que vous connaissez des initiatives ou des associations comme celle qu'on présente ce matin qui parlent d'Europe aux jeunes? Et pourquoi c'est important justement de parler Europe aux jeunes? On vous attend au 04 72 38 20 23. Et on va retourner dans la rue, toujours avec le micro d'Amaury et qui est allé demander aux passants pourquoi il était justement important de parler Europe aux jeunes.
Ouais, je trouve ça très important. C'est un peu notre environnement, si je peux dire ça comme ça. Et ouais, je trouve ça important.
Oui, c'est très important parce que ça, c'est le futur, ça concerne tout le monde. Ça permet de garder de la compétitivité au niveau européen.
Oui, je trouve que c'est important pour construire ensemble.
Ah ben, bien sûr. C'est vous maintenant, les jeunes, qui allez assurer cet avenir-là. Et c'est important d'avoir des idées précises sur ce que vous voulez. Et surtout de vous dire que les choses, elles ne doivent pas demeurer comme elles sont aujourd'hui. Elles doivent changer. Et c'est eux qui doivent impulser les changements.
Et je vais compléter avec un témoignage de Jacques qui nous dit « Né en 1950, environné dans mon enfance des récits de la guerre à peine terminée, j'ai découvert l'idéal de réconciliation européenne. J'ai toujours plaidé vigoureusement pour la passion de l'Europe auprès de mes petits-enfants et de mes enfants. C'est leur patrie. » Marie-Laure Kroguenec, c'est intéressant là aussi d'entendre ces petits micros tendus et puis cette volonté de parler peut-être un peu plus d'Europe aux jeunes. C'est le futur, on entendait. C'est ce que vous leur dites, vous, à vos jeunes?
Alors, c'est le futur, ça c'est certain. Alors, le dire, ça suffirait pas, parce que je pense que il faut qu'ils s'en imprègnent, il faut qu'ils le ressentent, il faut qu'ils le vivent. Mais oui. Et puis, à cet âge-là, les élèves sont très ouverts. En fait, ils ont toute la spontanéité, le bon sens aussi, pour réfléchir à des questions, même des questions de fond. Et, mais oui, c'est leur futur. Et il me vient en mémoire, là, une discussion d'il y a quelques temps, où un élève en classe, alors qu'on étudiait la Première Guerre mondiale, il comprenait pas. Il dit mais je comprends pas pourquoi tel pays était contre un autre, quoi. Hein, voilà. Et puis il dit je comprends pas parce que ce sont des pays d'Europe. Et puis tout en prolongeant sa question, il a eu en fait une sorte de révélation. Ah mais oui, à ce moment-là, c'était l'Europe, c'était pas l'Union européenne. Donc vous voyez, ça passe aussi par des mots. Les mots sont porteurs de sens et je pense qu'ils sont tout à fait capables d'accéder à cette conscientisation-là dès lors, encore une fois, qu'on permet de faire germer tout ça, quoi. Mais oui, effectivement, c'est leur futur et toutes les valeurs de paix qui sont à la base du projet européen, ben voilà, même on s'en rend compte un petit peu maintenant, un peu plus avec l'Ukraine, avec cette guerre qui est à la porte. Mais pour autant, on a peut-être que les dernières années, on avait aussi tous oublié ce que c'était que de vivre en paix, tout simplement, quoi.
Louise Groyer, on parle beaucoup depuis le début de cette émission de la citoyenneté européenne. Qu'est-ce qu'on entend par là, véritablement?
Oui. C'est vrai qu'il est important de relever la citoyenneté européenne, puisque, comme on a pu en parler précédemment avec le traité de Maastricht, depuis 1992, il existe cette citoyenneté européenne. Et cette citoyenneté européenne donne beaucoup de droits aux citoyens, donc français, mais citoyens européens, puisqu'elle crée ce statut de citoyen européen. Donc avec cela, on a beaucoup de droits, de libertés qui sont garantis, et on a aussi possibilité, notamment de faire des requêtes auprès de la Commission européenne, d'adresser des messages, de se porter aussi devant la Cour de justice de l'Union européenne. Donc tous ces éléments sont très importants à relever, et c'est ce qui fait vivre cette citoyenneté européenne et notamment la démocratie européenne.
Et je me fais l'avocat du diable, Jérôme Quiré, parce que si je change un petit peu mon âge, je pourrais dire que déjà les citoyens en France, parfois c'est un peu dur de se sentir citoyen, ou surtout chez les plus jeunes. Comment on arrive à faire en sorte qu'on ait cette citoyenneté européenne et qu'on la qu'on en soit fier aussi?
Alors, la citoyenneté, on l'a de facto à partir du moment où on a la nationalité française. Par contre, en effet, la ressentir et dire qu'on en est fier, ça c'est autre chose. Alors déjà, il faut préciser que l'un n'empêche pas l'autre. Par exemple, on peut se sentir breton, français et européen. C'est mon cas. L'un n'empêche pas l'autre. On a une multitude aussi d'identités et il faut pas les affronter, les confronter. On peut être très très fier d'être français et n'empêche qu'on peut être fier de son identité régionale, locale ou même européenne. Ça c'est des fois un des freins. Certains on sent un petit peu cette concurrence au sein de leur propre identité et ont du mal. Mais il n'y a pas forcément de hiérarchie à imposer ou à ressentir dans l'une ou l'autre de ces identités. Ensuite, c'est vrai que c'est plus facile de se sentir européen et fier d'être européen lorsqu'on est un citoyen mobile, puisqu'il y a beaucoup plus de droits accordés aux citoyens mobiles. L'Union européenne a fait en sorte de faciliter un maximum les échanges pour les étudiants, mais aussi pour les salariés, pour les chefs d'entreprise, les jeunes entrepreneurs, les demandeurs d'emploi. On peut aussi bénéficier d'Erasmus+, grâce à Pôle emploi. Donc il y a tout un tas de choses qui permet d'intensifier ces échanges et cette connaissance interculturelle. Et donc, on se sent beaucoup plus facilement fier d'être citoyen européen en tant que citoyen mobile. Pour ceux qui restent en France et qui ne sont pas forcément mobiles, c'est vrai que ça peut paraître un peu plus lointain, et c'est pour ça que c'est important, je pense, que des citoyens, des associations comme les nôtres puissent aussi aller à la rencontre des jeunes et des moins jeunes pour leur montrer l'impact concret, leur montrer que leur voix compte aussi dans l'Union européenne, parce qu'ils ne se rendent pas forcément compte. Il y a beaucoup d'abstention aux élections européennes. Aux dernières, moins quand même qu'aux dernières législatives, il faut le préciser, c'est important, parce qu'on dit toujours qu'il y a beaucoup d'abstention, mais pour une fois, les députés européens sont entre guillemets mieux élus que les députés français. Donc, je tiens quand même à le préciser. Donc, il faut aussi qu'on puisse stimuler les échanges. Et quand on n'est pas forcément mobile, d'autres citoyens européens non français peuvent être mobiles et venir à notre rencontre aussi sur notre territoire.
Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour Melchior. Je suis heureux de vous avoir au téléphone pour parler de l'Europe. Figurez-vous que je suis d'origine savernoise, où Louise Weil est née, et j'ai ma femme qui était originaire de Seychelles, là où Robert Schuman a vécu, et dont on vient de fêter le dies natalis. Donc c'est pour ça que je pense aujourd'hui que l'Europe, c'est une question de foi. J'ai aujourd'hui 90 ans, j'ai été parmi les jeunes à l'époque de leur création, quand il n'y avait pas encore le drapeau à 12 étoiles. Il y avait simplement le fanion blanc avec le E qui était fixé dessus. Et aujourd'hui, c'est une question de foi. C'est pour ça que je me dis qu'il ne faut pas tout le temps. Je m'insurge contre les amalgames qui font qu'il faut revenir à zéro, qu'il faut repartir à zéro, qu'il faut tout envoyer balader. L'Europe, c'est une question de foi. Il faut partir au contraire sur ce qui existe pour le valoriser. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai plus de 90 ans. Je ne peux pas me donner dans les écoles ou dans les choses comme ça. Je repense simplement à ce que disait Louise Weil, qui était une ardente féministe, et Robert Schuman, qui disait « Si j'avais connu, je me serais davantage impliqué sur les problèmes de la culture et de l'histoire de l'Europe ». Voilà.
Eh ben merci beaucoup Jean-Paul, on entend votre enthousiasme même au-dessus de 90 ans comme vous le dites et c'est très agréable. Merci pour votre appel au 04 72 38 20 23. Marie-Laure Kroguenec, ça aussi c'est intéressant. L'Europe c'est une question de foi, nous dit Jean-Paul. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Ah oui, certainement, de foi, de fierté, de confiance. C'est quelque chose qui nous guide, hein, tout à fait, complètement. Et justement, en lien avec ça, moi, je déplore le fait que l'Europe soit très, très peu absente des programmes scolaires. Parce que justement, on peut pas d'un côté considérer que c'est important, parce qu'on nous dit, on dira pas le contraire. Les ministres, quels qu'ils soient, vont pas dire que ce n'est pas utile. Mais pour autant, on voit pas de traduction concrète dans les programmes scolaires. Donc là, il y a quelque chose qui fonctionne pas du tout. Et il est grand temps que la cloche sonne et puis qu'on remette l'Europe à la place qui lui revient. Et non pas un strapontin comme elle a actuellement. Alors, on dit pas qu'il ne faut pas en faire, mais ce qui est très dommageable, et ça rejoint peut-être aussi la perception que les citoyens d'une manière générale peuvent avoir, c'est qu'il y a un certain flou dans les programmes. C'est très généraliste, donc c'est flou. Alors finalement, on peut tout y mettre comme on peut ne quasiment rien y mettre et c'est laissé un petit peu au libre arbitre de chaque enseignant, voire de chaque établissement. Là aussi, le directeur, le chef d'établissement a une part importante à jouer, mais dès lors qu'il y a tout ce flou là, eh bien, ça ne contribue pas, en tout cas, à dynamiser les choses.
On va écouter un peu de musique avec cette chanson qui a représenté la France à l'Eurovision. C'était il y a quelques jours, le 13 mai. Signé Lazara, évidemment. Alors, ça n'a pas fonctionné, mais pourtant, c'est une très belle chanson que je vous propose d'écouter tout de suite sur RCF.
Mon cœur, mes mains, mes yeux, mes reins, plus rien ne m'appartient. Je me fais du mal pour faire du bien. J'oublie comme si ce n'était rien. Dans mon jardin d'enfer poussent des fleurs que j'arrose de mes rêves, de mes pleurs. On a beau être sur le toit du monde, on ne peut toucher le ciel de doigts. Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent. Évidemment, car après le beau temps vient la pluie, c'est ce qu'on oublie. C'est toujours trop beau pour être vrai, mais c'est jamais trop. Demain, je rachète hier, le temps est assassin. Je cherche l'amour, je ne trouve rien, comme dans mon sac à main. Dans ma tête, ce n'est pas tant évident. Je cherche la vérité tout en l'évitant. On a beau être sur le toit du monde, on ne peut toucher le ciel du doigt. Promesse que j'entends, ce n'est que du vent. Évidemment, elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant. Car moi je chante ma vie, la vôtre et un peu de romance. Je suis unique devant vous, donnez-moi donc une chance. De vous à moi, de moi à vous, et je réussis à chanter. À chanter la grande France. C'est toujours trop beau pour être vrai, mais c'est jamais trop laid pour être faux. Évidemment, elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant. Évidemment.
Évidemment, c'était Lazara sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
avec Louise Groyer. Vous êtes la vice-présidente et responsable du programme L'Europe par les jeunes, qui fait partie des Jeunes Européens France. Jérôme Quéré, délégué général du mouvement européen. Et Marie-Laure Kroguenec, professeure des écoles et membre de l'AEDE, c'est l'Association Européenne de l'Éducation. Bonjour Jean.
Bonjour. Je vous remercie de me prendre. Je téléphone, je suis déjà un peu âgé, mais j'ai participé quand j'étais lycéen, dans les années 60, à une chose qui existait, qui était merveilleuse, qui s'appelait la Journée Européenne des Écoles, qui se déclinait dans toutes les langues, et qui consistait à donner aux élèves de tous les lycées d'Europe la même dissertation. Moi, j'ai fait une dissertation sur l'avenir de l'Europe, c'était donc dans les années 60. Et on était 24 lycéens par nation à être sélectionnés. J'ai fait partie des 24 lycéens français sélectionnés à cette occasion-là. Et on était rassemblés par la Journée Européenne des Écoles dans une des capitales de l'Europe. Moi, l'année où j'ai fait ça, j'étais à Vienne, en Autriche. Et on a été reçus pendant 8 jours. Et pendant 8 jours, les lycéens ont échangé, ont eu des ateliers, etc. Alors, on avait des problèmes de langue, mais on avait des traduction simultanée, c'était merveilleux. Et puis après, chaque groupe de lycéens, enfin, on faisait un seul minigondi parmi les différentes nations, et on allait visiter une nation. Moi, je suis tombé sur l'Autriche, donc je suis resté en Autriche. Et si vous voulez, ma conscience européenne était un petit peu, à l'époque j'avais 18 ans ou 17 ans, mais elle existait puisque j'avais voulu répondre par cette dissertation, mais elle a été décuplée. Je suis un Européen mais absolument fervent depuis cette date-là. Et ça n'existe plus, je suis vraiment un navré. Vite dit, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, mais tout ceci est lié au fait que dans l'enseignement, et je relais ce qui a été dit déjà par une de vos éditrices il y a un moment, dans l'enseignement français, on sait que l'Europe est pratiquement absente. On n'en parle jamais. On en parle uniquement avant les élections européennes et pour donner des listes auxquelles on ne comprend rien, avec un but sur lequel les gens ne sont pas du tout concernés. Mais il est évident que l'Europe est orpheline de cette façon-là. Elle le sera tout le temps et les gens ne comprennent pas ce qu'est l'Europe. Et voilà.
Eh bien.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En fait, je pourrais en dire plus, mais je vous laisse le soin de prendre l'antenne.
Merci beaucoup Jean. En tout cas, nous, on prend 2 heures pour en parler, vous voyez, d'Europe ce matin sur RCF, et on en est bien content. Marie-Laure Kroguenec, la Journée Européenne des Écoles, est-ce que vous avez connu ça peut-être?
Je l'ai pas connu, bien que je sois à ma 39e année d'enseignement. Moi, personnellement, je ne l'ai pas connu. Hein, mais en revanche, je mets en place, avec l'aide de collègues, puis je pense aussi aux professeurs du collège voisin de mon établissement, nous mettons en place un certain nombre d'activités. Et hier, en particulier, c'était la journée de l'Europe entre nos deux établissements. Donc, avec des ateliers à l'heure de midi, avec des ateliers sur la fabrication de petits bracelets aux couleurs des pays de l'UE. Il y avait également, j'en parlais aussi, de la construction du drapeau européen, mais diverses choses. Un escape game également, avec plein de questions évidemment autour de ça. Alors, ouais. Ça rejoint ce que disait Louise tout à l'heure, hein,
ouais, tout à fait.
un aspect ludique. Mais oui, je pense que c'est très important de célébrer. On parlait de foi, mais oui, il faut célébrer. C'est une grande fierté de vivre dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, même s'il est perfectible, et bien sûr qu'il l'est forcément. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'Europe est toute jeune à l'échelle du monde, à l'échelle de l'histoire, c'est 70 ans d'âge, mais c'est rien du tout. Il faut replacer tout ça en perspective aussi, et pas tout est à construire, mais il faut bien s'inspirer des valeurs et adapter au fil du temps, mais osons la célébrer, la fêter comme il se doit, mettre en valeur ce qui fonctionne, hein. C'est un petit peu, quelquefois peut-être qu'on parle aussi que des trains qui arrivent en retard et pas de ceux qui arrivent à l'heure, mais en Europe il se passe plein de choses bien. Jérôme a souligné l'importance au niveau des vaccins là, mais tout à fait, mais il y a pléthore
Erasmus
tout ça.
Aussi,
mais c'est le sentiment, ce qu'on perçoit, ce que les citoyens perçoivent effectivement, on montre pas. Je pense qu'il y a un déficit de communication là aussi, mais soyons fiers, soyons heureux, et puis faisons-le, n'attendons peut-être pas non plus tout de nos dirigeants, puisque voilà, puis en tant que citoyen, on peut aussi montrer l'exemple, prendre des initiatives, enfin en tout cas je pense qu'on a cette grande liberté.
Jérôme Quéré, je vous vois opiner du chef, hein, en écoutant, oui, Marie-Laure.
Il y a beaucoup d'associations, dont les nôtres, mais pas uniquement, qui se mobilisent pour réaliser plein de projets avec les jeunes sur les territoires. C'est pas forcément suffisamment connu, mais il y a vraiment une multitude d'activités. Moi, je sais que pour la Maison de l'Europe de Paris, j'avais développé des séances avec des jeunes de Gennevilliers, de lycées professionnels, sur comment combattre les fake news. Mais avant de les combattre, d'ailleurs, comment se rendre compte que ce sont des fake news pour développer l'esprit critique sur les jeunes. Et au lieu d'aborder directement le sujet européen, je suis parti de ce qui les intéresse, donc je suis parti sur plutôt des rumeurs qui circulent dans les écoles, etc., les lycées. Et il y a beaucoup de séries télé dont c'est l'objet principal, et donc je leur ai diffusé des moments, des passages dans ces différentes séries. Je les ai fait commenter pour ensuite leur montrer que ces rumeurs, et je fais le parallèle avec la désinformation, sont nocives pour le débat public ou pour le bien vivre ensemble au sein des lycées. Et ensuite je suis parti sur les fake news, la désinformation en bon français, sur les questions européenne. Et donc il y a plein de choses qui sont possibles, voilà, des escape games, des débats mouvants, plein de choses diverses et variées qui sont réalisées déjà par les associations, avec ou non le soutien public, et donc il faut encore intensifier, et il faut permettre aussi aux associations d'avoir l'accès aux écoles. Parfois il y a des professeurs et des directeurs d'établissements et directrices d'établissements qui ont vraiment la porte ouverte aux associations, bien sûr sérieuses et reconnues, et d'autres sont plus frileux et frileuses à ouvrir les portes, se disent attention, c'est l'éducation nationale, on va pas laisser n'importe qui prendre la parole. Et ils ont raison d'être sérieux là-dessus, et pourtant ça ferme la porte parfois des associations comme les nôtres, et c'est dommage. Et c'est vrai que si au niveau de l'éducation nationale il y avait un message potentiellement pour permettre d'ouvrir plus facilement les portes des écoles à l'éducation populaire qui est reconnue par l'État, notamment sur les questions européennes, ça serait vraiment un bien fait pour l'apprentissage sur les questions européennes.
Vous avez parlé de séries télé en lien avec l'Europe. Moi, je vous en conseille une. Je suis sûr que vous l'avez regardée. C'est Parlement sur France TV / qui est exceptionnelle. Une série vraiment à la fois drôle et puis intéressante parce qu'elle nous informe aussi des différentes spécificités de l'Europe. Il faut s'accrocher parce que ça parle en plusieurs langues. Mais c'est une très belle série, Parlement. Voilà. Louise Groyer, on parlait des célébrations de l'Europe. Il y a quelques jours, le 9 mai, c'était la journée de l'Europe. Qu'avez-vous fait, vous, de votre côté, avec vos collègues au sein des Jeunes Européens France ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que le mois de mai, bien souvent, c'est un mois très chargé pour notre association, avec plusieurs moments de célébration partout sur le territoire, réalisés par nos bénévoles des différentes sections locales. Alors, pour mon cas, j'ai été présente à l'hôtel, sur la place de l'hôtel de ville de Paris, le 13 mai exactement. Pour présenter l'association et notamment la campagne que nous entamons à un an des élections européennes. Il faut le rappeler, dont on a eu les dates précises il y a peu, donc 6 et 9 juin 2024. Et pour cela, on avait amené avec nous notamment notre carte géante de l'Europe, enfin de l'Union européenne, avec laquelle en fait on réalise beaucoup d'interventions pédagogiques et qui attirent souvent l'œil, petits comme grands, comme des grands, viennent sur la carte pour replacer les drapeaux européens, les capitales, les pays également, et c'est ce qui permet d'avoir une première approche pédagogique et ludique.
Merci Louise Groyer d'être passée dans Je pense donc j'agis. Je vous libère, c'était prévu à 10h45, il y a même une minute d'avance. Et puis je rappelle que vous travaillez notamment pour l'Europe par les jeunes. C'est un programme qui fait partie des Jeunes Européens en France, dont on peut retrouver plus d'informations sur le site europeparlesjeunes.fr. Bonjour Bruno.
Ah bonjour.
Bonjour, bonjour. Vous êtes à l'antenne, on vous écoute.
Oui, alors je suis ancien président du mouvement européen de la région Auvergne dans les années 2000 et je suis originaire de la Savoie, du Beaufortin, et j'ai toujours été un grand militant européen. Alors je salue les jeunes, bravo les jeunes européens, de tout cœur je suis avec vous. Mais bon, les choses ne sont pas simples. D'abord, le monde est en train de se bousculer. Et si nous ne continuons pas la construction européenne, les prochaines générations, elles seront les domestiques des Chinois. Ce sera une colonisation à l'envers de l'histoire. C'est très important, c'est des enjeux considérables. Battez-vous pour avoir le droit de vote comme vient le faire la Belgique pour le prochain scrutin des élections européennes à partir de 16 ans. Et puis, je crois que faut pas trop sentimentaliser, il faut aimer l'Europe, mais ne pas trop la sentimentaliser, il faut être réaliste. Et il y aura un besoin pour la faire avancer d'introduire quelques notions fédéralistes. Je suis savoyard, nous avons la Suisse à côté. Voilà un bel exemple de fédéralisme réussi.
Merci Bruno.
Les quatre vallées qui se disputaient, eh bien depuis 500 ans, elles sont en paix.
Et c'est pas fini, hein.
Et c'est un modèle sur lequel il faut travailler, même s'il est plus petit que l'Europe.
Allez dire à un haut savoyard qu'il habite en Savoie, vous allez voir si c'est vraiment fini. Merci beaucoup Bruno. Je rigole bien sûr. Merci pour votre témoignage. Jérôme Quiré, voilà, ce sont nos aînés hein, qui témoignent ce matin par rapport au mouvement européen. Peut-être justement rappeler un petit peu vos différents objectifs, parce que vous êtes réunis en 50 sections locales, un peu partout en France, même en Europe je crois, depuis 1950. Vous faites beaucoup de choses, on a parlé de pédagogie, vous organisez également des débats bien sûr.
Oui, on a trois piliers. D'un côté, la pédagogie qui est vraiment ouverte tout public, notamment les jeunes, mais pas uniquement, hein, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui ont besoin d'apprendre des choses sur l'Union européenne. On stimule le débat. Pour nous, c'est important que chaque personne se fasse sa propre opinion. Donc, on invite des personnes qui sont parfois très, très critiques envers l'Union européenne, d'autres qui la défendent dans un aspect ou dans un autre. Mais c'est très important pour nous que chacun se fasse sa propre opinion, puisqu'on n'est affilié à aucun parti politique, ni même aux institutions européennes. Et le dernier pilier, c'est sur le plaid doyer, on va défendre quelques réformes sur l'Union européenne, mais qui sont des réformes non partisanes. Des choses qui font consensus chez nous, alors qu'il y a des gens qui sont majorité non encartés ou écartés de plusieurs partis politiques vraiment différents. Par exemple, donner plus de poids au Parlement européen, puisque ce sont des élus qui sont désignés directement par le peuple, hein, au suffrage universel direct, et on aimerait que, justement, la voix du Parlement européen compte davantage. Elle compte déjà, hein, bien sûr, mais on aimerait qu'elle compte davantage, notamment qu'elle puisse proposer des législations. Pour l'instant, c'est la Commission européenne qui a acquis à la main. Alors, le Parlement européen peut lui souffler des choses quand même, hein, et il le fait déjà, mais elle ne peut pas directement proposer l'équivalent d'une loi européenne. Et donc ça, c'est par exemple quelque chose sur lequel on se bat, sur aussi un peu plus d'Europe dans les programmes scolaires. Ça c'est une bataille de longue date. Et aussi dans l'audiovisuel français. Ça, c'était une bataille qu'on a menée il y a quelques années et qu'on continue pour montrer que justement on n'en parle pas assez, même si RCF fait bien sa part.
Merci, je prends. Marie-Laure Kroguenec, justement, on entendait quelques auditeurs tout à l'heure qui disaient qu'on ne parlait pas assez de l'Europe dans les programmes scolaires. Qu'en est-il véritablement, Marie-Laure? Qu'est-ce que vous constatez, vous, avec vos élèves de CM2 et puis le programme national?
Le programme national donne des généralités en fait, hein. C'est-à-dire qu'on a à étudier les paysages d'Europe, une diversité de paysages. On parle un peu aussi de citoyenneté européenne, mais encore une fois, on sent pas du tout dans les programmes de volonté politique. C'est pas du tout tendance. C'est très flou. Donc c'est trop généraliste, ouais. C'est pas assez précis. Alors du coup, ça entraîne que c'est à géométrie variable. Et pour peu que les enseignants n'aient pas cette sensibilité-là, eh bien ils vont pas forcément s'en saisir. Et là, il me vient aussi à l'idée l'importance de la formation des enseignants. C'est quelque chose qui paraît, mais enfin ça paraît évident, mais pourtant il y a pas non plus cette dimension-là n'est pas apparente dans la formation initiale des enseignants. Donc c'est là il y a un gros travail à faire, et l'éducation, quels que soient les domaines, l'éducation à l'Europe et l'éducation pour tous les thèmes, ça se fait à tous les âges, tout au long de la vie, et il y a pas non plus d'âge à partir duquel il conviendrait de faire ça. Moi je milite pour que aussi l'Europe soit présente dans les programmes, mais dès le plus jeune âge, dès la maternelle. C'est une construction. Et il n'y a pas un âge à partir duquel, c'est pas uniquement à partir du moment où on peut voyager et on peut se déplacer. On a un petit peu quelquefois confondu l'Europe avec les échanges scolaires ou limité aux échanges scolaires.
Oui, c'est pas que ça.
Alors certes, ça contribue et l'apprentissage des langues évidemment est quelque chose de très important. Mais ce serait dommage de se limiter à ça. Et les sections européennes, par exemple, qui avaient été mises en place aussi en certain temps, ont donné pas dans certains endroits, pas partout, mais quelquefois ça, c'était un petit peu une vitrine et qui occultait, enfin qui ne permettait pas de voir ce problème dans toutes ses composantes, quoi. Mais dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, c'est l'éducation des adultes aussi, bien entendu, quoi.
Bonjour Colette.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Merci. Moi, c'était un témoignage. Excusez-moi. Non, il y a eu donc j'ai 80 ans. Il y a eu aussi l'office franco-allemand. Bien sûr, c'est la France et l'Allemagne, mais tout de même. Et pendant 4 ans, nous sommes partis avec mon mari et un aumônier en camp en Allemagne, dans le cadre aussi donc de l'office franco-allemand et de l'action catholique ouvrière. Donc, comme une union de paroisses, de la CO, avec 40 jeunes, 4 ans de suite, de milieu populaire, hein, comme je le suis. Voilà, je témoigne de ça, c'était extraordinaire, extraordinaire. Moi, nous-mêmes, nous avions un papa qui avait été prisonnier de guerre, il ne comprenait pas trop que nous partions. Moi, j'avais dans le moment, mon mari et moi, on avait 27 ans, 2 enfants. On les a laissés pendant 15 jours,
oui.
Et on est partis en camp. Avec ces 40 jeunes, et ça pendant 4 ans. Voilà, une initiative qui a existé parce que l'État le favorisait. Nous, on ne faisait pas de politique, mais rien que le fait de se rencontrer, on a eu des échanges avec les autres jeunes, mais aussi nous avons été reçus dans des usines, nous avons été reçus dans des mairies, ne sachant pas parler allemand, et notre interprète, c'est une étudiante de 18 ans. Les échanges sont...
Et ben merci beaucoup Colette de nous avoir raconté vos souvenirs et justement ça fait penser à un autre témoignage qu'on a reçu d'Evelyne et Richard d'ailleurs en couple hein, qui nous dit, alors c'est Evelyne je crois, j'avais 19 ans quand Adenauer et De Gaulle ont organisé des stages de ski franco-allemand et c'est là que j'ai rencontré mon mari alsacien. Je suis allé vivre pendant 20 ans dans le pays pour lequel mes oncles étaient morts hein, pendant les deux guerres. Moi la petite provençale qui pleurait devant les monuments aux morts de nos villages. Nous avons aujourd'hui 54 ans de mariage et toujours l'Europe au cœur. Une partie de nos enfants et petits-enfants vivent en Alsace et les autres dans le Sud-Est. Quelle merveille que ces échanges entre nos deux belles régions. Bah voilà, je pense que ça va très bien terminer cette émission. Ce que je vous propose, Louise n'est plus là. Jérôme et Marie-Laure, c'est d'accueillir notre chroniqueur qui, chaque mercredi, nous parle de patrimoine. Et nous retrouvons notre chroniqueur Jacques de Chauvelin de la Sauvegarde de l'art français. Bonjour Jacques.
Bonjour Melchior, bonjour à tous.
Alors vous nous parlez d'un beau projet pour la renaissance d'une abbaye longtemps laissée à l'abandon.
Oui, nous prenons aujourd'hui les routes de la Nièvre pour vous faire découvrir Saint-Laurent-l'Abbaye. Alors c'est un petit village de 218 habitants qui est blotti dans les vignobles du Pouilly. Et comme son nom l'indique, le village a été bâti autour d'une abbaye fondée au VIe siècle qui a connu bien des déboires. Elle a été pillée, reconstruite, repillée et puis reconstruite à de nombreuses reprises. Et puis elle a décliné au cours du XVIIIe siècle avant d'être totalement laissée à l'abandon. On a eu en plus plusieurs catastrophes qui ont endommagé considérablement l'ensemble. Par exemple, en 1928, le somptueux portail de l'abbaye est revendu au musée des Beaux-Arts de Philadelphie. Enfin, l'effondrement du clocher en 1945 achève le déclin du site. Alors malgré un classement comme monument historique en 1996, aucun projet n'avait pu conduire à la préservation du site et Saint-Laurent semblait condamné.
Mais c'était sans compter sur la générosité d'une habitante du village.
Oui, en 2022, une première très bonne nouvelle tombe pour le village, puisque la Caisse des Monuments et Sites de la Nièvre, donc la Camosine, reçoit un très important legs d'une habitante de Saint-Laurent. Alors cette dame, c'est Jeanne Potras, qui a œuvré toute sa vie à la protection de Saint-Laurent avec l'association pour la sauvegarde de l'abbaye du site, et elle a permis par son don de plus de 1 million d'euros d'envisager vraiment un renouveau pour le monument. Et grâce à sa générosité, une fondation abritée a été très récemment créée à la sauvegarde de l'art français pour permettre de rendre son lustre à notre monument en souffrance.
Et d'ailleurs, ce legs n'est pas la seule bonne nouvelle pour les habitants de Saint-Laurent.
Oui, la commune a en effet pu compter sur un alignement des étoiles, hein, puisqu'en parallèle, elle a remporté un prix, le prix Art Graphique et Patrimoine de la sauvegarde de l'art français également. Et ce prix, en fait, permet d'offrir la numérisation 3D du site, et il arrive à point nommé pour soutenir le nouveau projet permis grâce à la générosité de Madame Potra. En fait, ce prix permet de créer un jumeau numérique de l'abbaye qui va permettre aux architectes de mieux cerner les besoins de restauration du site qui est vraiment très dégradé. Ce qu'il faut savoir aussi comme bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi pris des contacts avec le musée de Philadelphie, où est conservé le fameux portail, afin que la société Art Graphique et Patrimoine puisse se rendre sur place et le numériser pour qu'on ait un double numérique du portail à des fins de médiation, valorisation du site. Enfin bref, pour vous dire, ce monument a longtemps été une verrue au centre du village, et on a là une série de bonnes nouvelles qui fait du bien à une commune qui vivait à l'ombre de son abbaye en ruine. Grâce à ce projet, l'ancienne abbaye sera remise en lumière au centre des circuits historiques et touristiques de la Nièvre.
Merci beaucoup, on va vous laisser répondre à votre téléphone, Jacques de Chauvelin. Il n'y a pas de problème, merci pour ce point patrimoine et bien sûr pour en savoir plus sur toutes vos actions de la Fondation de la Sauvegarde de l'Art Français, rendez-vous sur le site sauvegardeartfrançais.fr. D'ailleurs, tiens, un petit mot Jérôme Quéré sur le patrimoine européen. Pour vous, c'est peut-être une question piège, je ne suis pas sûr, mais qu'est-ce qui représente le patrimoine européen? Est-ce qu'il y a quelque chose, un monument, une figure? On parlait de Louise Weiss. Le patrimoine, c'est très large, hein, bien sûr.
Oui, mais je pense que c'est une multitude de choses. Il n'y a pas un patrimoine européen qui remplacerait les patrimoines nationaux. C'est aussi ce qui fait notre richesse, c'est la diversité. Donc le patrimoine européen, c'est aussi le patrimoine français, polonais, bulgare, portugais. Et donc je pense pas qu'il y ait besoin forcément de remplacer les patrimoines nationaux. Et après, il y a des grandes figures européennes, si on prend dans ce sens. Et en effet, c'est les femmes qu'on a déjà citées, les pères fondateurs. Ça, bien sûr, aussi, ça fait partie du patrimoine.
Et vous, Marie-Laure Krogenek?
Eh bien, moi, je dirais que c'est peut-être la culture, justement, notre culture européenne. Et puis, eh bien, il s'agirait donc d'en prendre conscience, de la développer, et puis pour pouvoir la faire vivre auprès de chacun de tous nos citoyens. Une belle idée. Et en tout cas, je crois que c'est quelque chose. Il n'y a pas que du matériel. Il y a tout ce qu'on vit, qui nous appartient. Dans notre cœur.
Faire vivre la culture européenne. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous dans Je pense donc que j'agis. Jérôme Quéré, je rappelle que vous êtes le délégué général du mouvement européen, à retrouver sur le site internet mouvement-européen.eu. Et puis Marie-Laure Krogenek, professeure des écoles et membre de l'Association européenne de l'éducation, c'est l'AEDE. Et là aussi, on peut retrouver plus d'infos sur le site aede-france.org. Merci à Pascal, Pierre-Henri, Amaury et Catherine qui ont permis ce matin la réalisation, et bien sûr à Yvon qui vous accueillait ce matin, Marie-Laure, du côté de Brest. Merci à toute l'équipe qui s'est mobilisée pour rendre cette émission possible. On va se retrouver demain si ma voix le veut bien, c'est pas sûr, hein, mais j'espère que je vais tenir d'ici ce soir et demain. Demain, on parlera de ces métiers qui ont du mal à recruter, qui sont dans une situation très très compliquée d'ailleurs, hein, dans le secteur de la petite enfance, le secteur infirmier, les éducateurs, les professionnels des enfants, bref, des professions qui sont déjà à bout de souffle. Alors comment redonner le goût de ces métiers de l'humain? Comment consolider ces emplois pourtant essentiels? On verra ça avec Stéphanie Gallet demain de 9h à 11h dans Je pense donc j'agis. D'ici là, passez une bonne journée avec RCF et à demain.